Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Un ami et un fidèle partenaire dans le ministère pendant plusieurs années. C'est un ami aussi où on prend du temps, on s'appelle régulièrement. En tout cas, ces derniers temps, on s'est appelé plus. Puis on se partage ensemble qu'est-ce qu'on vit, on prie l'un pour l'autre. Puis ça a été un bon ami et confident au travers des années. Et puis, on a fait le ministère ensemble. Plusieurs personnes ont été baptisées, formé des disciples ensemble. On a eu des gens qui avaient besoin d'aller en thérapie. Ils avaient besoin de travailler sur eux-mêmes. Et j'avais entendu dire qu'il y avait, dans la maison de thérapie à Montréal, on enseignait sur l'identité. Puis ça, c'était un des points. J'ai dit, il faut aller voir à l'Armée du Soleil à Montréal. Il paraît qu'il enseigne sur l'identité, les natures, les deux natures, le nouvel homme, l'ancien homme et tout ça. Et donc, on est allé là-bas, puis on a envoyé quelqu'un là-bas. Puis on s'est fait plusieurs amis à l'Armée du Salut. Hein? Et puis, on a gardé le contact ensemble. Puis, je suis content que tu sois ici ce matin. Tu as prêché sur la fête des Pères sûrement dans ton église la semaine passée. Puis voilà que tu viens continuer sur le sujet aujourd'hui ici. On t'invite chaleureusement, on t'accueille.
Merci, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous. Pour moi, un grand privilège. Et il y a beaucoup de souvenirs ici qu'on a partagés ensemble. Et merci de pouvoir vous revoir aussi. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que on m'attend bien? Oui? Vous savez, qu'est-ce qui m'a poussé beaucoup à partager sur les pères? C'est que j'ai travaillé pendant, je comptais ça tantôt, combien ça fait d'années que j'ai travaillé avec les hommes? J'ai travaillé pendant 29 ans à temps plein, un petit peu en dehors de ce que j'ai fait aussi à temps partiel. J'ai travaillé 29 ans avec les hommes de différentes situations à travers la toxicomanie, la délinquance, toutes sortes de choses. Et ça m'a donné progressivement à découvrir des choses. Et avoir l'importance, comment l'importance par rapport au Père, dans la dimension de la vie, la famille puis notre société. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'approfondir ces choses. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous partager une partie de ce que je crois que Dieu m'a donné de découvrir. Alors, l'importance des Pères, vous savez comme moi, on peut remarquer aussi depuis quelques décennies, depuis 20 à 30 ans, il y a vraiment eu une transformation de l'image paternelle dans notre société. Et c'est vraiment malheureux de voir que ce qui est arrivé par rapport à ça. Vous savez, souvent les publicités nous montrent des pères incapables, faibles, des pères qui sont souvent idiots. Vous savez, une des émissions les plus écoutées des enfants, c'est les Simpsons. Et l'image qu'on présente, ce père-là, on le voit, je ne me souviens pas dans combien de pays dans le monde, c'est incroyable. Cette émission-là est divulguée dans un nombre infini de pays, là. C'est incroyable. Et l'image qu'on a, c'est un père idiot. Et ça me triste de voir toutes ces choses. Parce que la Bible nous dit d'honorer les pères à cause de la responsabilité, de leur fonction. Ils doivent être honorés. Alors, on voit tout ça, ce qui affecte notre société aujourd'hui, une grande partie, finalement se retrouve en situation ou à cause finalement de tout ce qu'on a projeté comme image paternelle. Alors, je remercie Dieu pour qu'il me donne le privilège de partager. Dieu se déclare un père. On va le voir ensemble. On va essayer d'approfondir ça ensemble. Et aussi, comme père, comme homme. Et pour moi, c'est clair, tous les hommes sont des pères. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que, si vous êtes une femme, que vous vous sentiez exclue. Parce que dans toute cette dimension-là, vous êtes aussi, vous en faites partie. Parce que dans le concept de Dieu, selon le plan de Dieu, l'homme et la femme travaillent ensemble. Ils sont unis dans une même mission, formés pour, finalement, pour former une famille et pour, finalement, pour glorifier Dieu en toutes choses. Alors, Dieu nous équipe ensemble pour travailler ensemble. On est dans la même mission, qu'on soit homme, femme, père ou mère. Alors, je parle aussi au père, mais je parle aussi aux mères aujourd'hui. Alors, merci Seigneur que tu nous as unis encore aujourd'hui. Et on veut tourner nos regards vers toi et afin que tu nous instruises encore dans toutes ces dimensions lorsque tu nous te déclares un père. Alors, merci pour tes enfants. Avant même que le monde soit créé, tu avais quelque chose dans ton cœur, former une famille où tu serais le père d'une multitude de fils et de filles. Alors, merci, Père, de te révéler aujourd'hui à travers ta parole. Et merci pour tes enfants et puisses-tu leur accorder ta bénédiction. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va aller voir d'un premier passage de la parole de Dieu. C'est 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. On va lire, commencer à 17. 2 Corinthiens 6, 17. Alors, 2 Corinthiens 6, 17, ça nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Alors, on voit ici que le désir de notre Père céleste, c'est d'entrer dans une relation filiale avec ses fils et ses filles. Amen. Dieu veut nous voir près de lui. Amen. Alors, c'est pourquoi que Jésus avait comme mission de nous conduire au Père. On voit ça dans la parole. Nul ne vient au Père que par moi. Il veut nous conduire au Père. Il va nous dire, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais venir à vous. Alors, il veut nous conduire au Père. Jean 14, chapitre 14, verset 18. Jésus veut nous conduire au Père, il veut nous révéler le Père. Cela fait partie de sa mission. Jean 14, 18. Alors, c'est ce qu'il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, évidemment, il veut nous conduire au Père, et il ne veut pas qu'on se sente... Un orphelin, c'est quelqu'un qui se sent seul. Se sent abandonné souvent, qui a besoin de direction, qui cherche à connaître qui il est, son identité et tout ça. On avait vu nous conduire au Père. Là, alors en nous conduisant au Père, là nous découvrons un Père qui nous aime profondément. Amen. Notre Père nous aime profondément. C'est ce qu'on va découvrir. Ce que Jésus veut qu'on découvre. Savez-vous, les relations souvent paternelles. Je me souviens comme ça d'un fait qui est arrivé dans une prison. Ça m'avait frappé. Quand il y avait eu la fête des mères, alors il y avait un ministère chrétien qui allait dans les prisons et qui offrait des cartes pour la fête des mères. Et les demandes avaient été tellement, tellement fortes qu'il avait manqué de cartes. Alors, il savait que la fête des Pères allait suivre. Alors, il avait dit, bon, on va se préparer comme il faut, puis on va faire la même chose, on va faire des cartes pour la fête des Pères, comme on l'a fait pour la fête des Mères. Mais ce qui est arrivé, finalement, il n'y avait presque pas de demandes. Et souvent, savez-vous, la relation avec les Pères n'a pas toujours été très évidente. Et on peut la porter même encore aujourd'hui comme chrétien. Comment on s'approche de lui? Qui est-il? Alors, on voit souvent ces dimensions. Mais Dieu veut se révéler aussi comme un Père. Alors, l'amour du Père est un grand mystère. On pourrait dire quelque chose. On voit Jésus, mais Jésus va nous dire... Vous allez connaître le Père en me regardant. Car moi, le Père, on est unis, on a la même dimension. On est semblables. Si vous avez vu le Père, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais, oui, Jésus veut nous faire connaître le Père. Jésus trouvait sa paix, son bonheur dans cette relation. Dans cette relation intime. Tout au long de sa vie, il nous parle de son Père. Jésus trouvait sa force, son bonheur, sa joie dans cette relation intime qu'il avait avec son Père. Et c'est là qu'il veut nous faire découvrir cette relation. On voit aussi quand Jésus a été baptisé, le Père s'est manifesté. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est la même parole que le Père veut nous donner à chacun de nous, toute cette affection qu'il a pour chacun de nous. Alors, pas étonnant que Jésus a crié à son Père dans les moments les plus difficiles. Hein, on le voit à Gethsémani. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. On le voit crier de tout son cœur. Dans les moments les plus difficiles. Pas étonnant qu'il a crié à son Père. Et le cri le plus perçant, le plus intense, fut sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, les cris qui étaient dirigés vers son Père, pas étonnant qu'il a crié avec autant d'intensité, sachant que cette relation, finalement, il se sentira abandonné. À travers cette relation. Cette relation avec son Père était si présente. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et dans le... Nous sommes un. Et ça, c'est bien exprimé dans la prière sacerdotale. Avant de mourir, Jésus a prié. La prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, qu'on retrouve dans Jean, chapitre 17, verset 11. Jean, chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Alors, Jésus prie pour nous. Je vais à toi, Père Saint. Merci, Seigneur, encore. Ça nous rappelle ce que Pasteur Jean-Sébastien nous a partagé tantôt. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, son désir, c'était que ses enfants soient un comme lui et un avec son Père. Alors, l'unité dans la prière sacerdotale. Alors, il existe comme un principe sacré entre le Père et le Fils dans cette relation qui est appelée l'unité. Un, faire un. En hébreu, le mot c'est Ehad. Ehad. C'est très intéressant d'étudier ce mot-là. Ehad. Les Juifs le disent trois fois par jour. Les jours qui suivent, finalement, l'Ancien Testament. Alors, c'est une proclamation. Shema Israël Adonai Eloheinu Ehad. J'espère que je le prononce assez bien. Alors, ils vont prononcer ça trois fois par jour là, dans leur culture. Alors, vous avez sûrement entendu ça, hein? Et je vais le traduire. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Alors, c'est le mot « Ehad ». Alors, c'est le même mot qu'on retrouve « Ehad » dans Genèse 21, verset, attendez, dans Genèse, c'est dans, je crois que c'est 3, 21, 24, « Ils ne feront qu'une seule chair. » Encore, c'est « Ehad ». Quand il parle que l'homme va quitter ses parents, va s'unir à sa femme, puis ils vont faire une seule chair. Alors, le mot, c'est « Ehad » aussi. Ils vont faire une unité. Alors, le mot « unité » ici est vraiment important. Alors, c'est cette relation que le Père Céleste veut engendrer en nous, faire « Ehad ». C'est la relation essentielle au maintien de l'équilibre. Il faut qu'il y ait une unité et non pas une division. La séparation ne crée pas l'unité. Alors, « Ehad », c'est la relation essentielle pour l'équilibre. Sinon, on va appeler ça la division, la confusion, le chaos. Hein, le chaos, le chaos. C'est un mot qu'on vient aussi de l'hébreu, le chaos au début. La terre était informée vide. Alors, revenons au Père, à la paternité. Alors, l'étude des civilisations du passé, qui ont disparu. Et, vous savez, il y a des grandes civilisations qui ont disparu. Alors, si on fait une étude de ces civilisations, on va se rendre compte que c'est les civilisations qui ont tombé dans le chaos, dans le chaos, ont été marquées par l'abandon de la paternité. C'est pour ça que notre civilisation, présentement, est en train de traverser quelque chose de très important. La dimension de la paternité est mal comprise. Et de plus en plus, ce qu'on va voir dans notre société, c'est le chaos, le chaos. On est en train de reprendre un chemin que d'anciennes civilisations ont passé. Alors, c'était marqué par l'abandon de la paternité. Savez-vous, ça m'a attristé une fois, j'étais allé sur Internet pour voir les principes du mouvement féministe aujourd'hui. C'était un des premiers but, c'était la démolition, c'est écrit comme ça, démolition du patriarcat. Alors ça vient vraiment triste de voir des choses comme ça. Démolition du patriarcat, c'est ça qui est écrit, je suis allé sur Internet. Un des premiers buts. Malheureusement, quand on est rendu dans les mouvements qui deviennent haineux, destructifs, qui vont affecter toutes les dimensions de la famille et de la société. C'est vraiment malheureux. Alors, les sociétés marquées souffriront. C'est les sociétés qui sont marquées par l'abandon de la paternité vont souffrir. Particulièrement, le manque d'identité, ce qu'on va voir, et particulièrement, nous le voyons dans notre monde aujourd'hui, où les gens ont beaucoup de difficultés avec leur identité. Vous le voyez, de tous côtés aujourd'hui, c'est l'évidence. Le manque d'identité et les dépendances. On est dans un monde de dépendance, où les gens développent de plus en plus toutes sortes de dépendances, qui sont le résultat de besoins non comblés. Les gens cherchent à toutes sortes de façons et ce qu'ils devraient combler, finalement, que le Père, particulièrement aussi à travers le Père Céleste, pour combler ses besoins. Alors, pour devenir des pères selon le cœur de Dieu, il faut apprendre, premièrement, chaque père doit apprendre du Père Céleste. C'est la base. Pour être de bons pères, il faut apprendre du Père Céleste. C'est ce que Jésus a fait. Jésus ne faisait rien autre que ce qu'il avait appris de son Père. On le voit dans Jean, chapitre 5, verset 19. pour nous, pour, comme homme, comme père, c'est la même chose. Jésus ne faisait rien autre de ce, que ce qu'il avait appris de son Père céleste. Jean 5, 19, ça nous dit, « Jésus prit la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce que, qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors, on apprend, c'est là qu'on doit apprendre comme Père. Nous devons nous rappeler que nous ne serions pas ici, chacun de nous, si le Père ne nous avait pas attirés à lui. Il y a aussi écrit que chaque plante qui n'a pas été plantée par le Père céleste va être déracinée. Alors, on se rappelle que si ce n'était pas du Père céleste, personne ne serait ici aujourd'hui. Alors, Jésus a dit, nul ne peut venir, venir à Jésus à moins que le Père ne l'attire. Hein, c'est ça? Alors, c'est le Père qui nous a attirés pour qu'on vienne à Jésus. Il y a plusieurs versets comme pour nous, qui nous indiquent ces choses. Alors, Dieu est esprit. Alors, on essaie de comprendre pourquoi Dieu est appelé Père. On sait qu'il est esprit. Dieu est esprit. Pourquoi est-il appelé Père? Alors, cela concerne sa fonction. Alors, comme Père, il est, parce qu'il est la source, comme le point de départ de tout ce qui a été créé. Alors, il est appelé Père parce qu'il est le point de départ. Hein? La source de, d'un fleuve, une rivière, et vous allez finalement débuter peut-être un petit cours d'eau. Alors, il y a toujours un début à quelque part. Il est la source de tout ce qu'il a, qui est créé, au fond de ça. Dieu est Père comme étant créateur. C'est ça que ça veut dire. On voit aussi, pour comprendre la dimension de Jésus comme Père, vous l'avez dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Alors, Jésus ici, alors généralement, on le voit comme fils. Hein? Il est appelé comme fils, généralement. Mais ici, on le voit comme Père. Ça, c'est important de saisir ces choses-là. Alors, Isaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alors, on voit les noms qui sont donnés à Jésus ici. Et entre autres, Père. Alors, Jésus est appelé Père ici. Pourquoi? On le voit souvent comme fils, mais ici, qui est décrit comme Père. Alors, c'est dans la même dimension. Jésus comme créateur. C'est pour ça. Par lui, le monde fut créé. Alors, on voit dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 1. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, Jésus est appelé Fils comme créateur. C'est ce qu'on a vu comme la dimension du Père. Maintenant, comme Père maintenant, l'homme comme Père a la mission. Alors, on voit qu'est-ce qu'on voit que Jésus fait ici? Le verset, on va aller au verset 3 aussi. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par sa parole puissante. Ce mot-là est très important. Soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, on voit que Jésus soutient toute chose, soutenant toute chose par sa parole puissante. Alors, voyez-vous, la dimension aussi qu'on voit ici, c'est que Jésus soutient ce qu'il a créé, comme le Père soutient ce qu'il a créé. Alors, comme l'homme, comme Père, a la mission de soutenir tout ce qui vient de lui. Alors, on rentre dans la dimension d'homme terrestre. Alors, on voit que Dieu soutient ce qu'il a créé. Et comme homme, dans sa mission, il doit soutenir ce qui vient de lui. Ça, c'est vraiment important. Quand Dieu m'a révélé ces choses-là, ça amène une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension. La dimension paternelle, comme père. C'est vraiment important de saisir ça. Alors, il soutient. Alors, on voit ici, pour mieux comprendre, on va aller dans Éphésiens chapitre 5, verset 28. Éphésiens chapitre 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il est demandé à l'homme, c'est que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Alors, on voit ici qu'on entre encore dans ce qu'on avait vu dans Genèse. Ils feront une seule ehab, un seul corps, un seul être, une seule chair. Hein? L'homme doit voir sa propre femme comme ehab. En hébreu, sa propre chair. Et ce qui nous est dit aussi, bon, il doit en prendre soin. Jamais personne n'a eu sa propre chair. Il la nourrit, il en prend soin. Il la soutient. On pourrait mettre le mot soutien, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Alors, ça, c'est important. Cette dimension est vraiment importante à l'homme. Vous devez voir votre femme comme vous-même. Dieu demande de donner le soin à vos épouses. Et ça va évidemment s'étendre à vos enfants. On va aller voir plus loin dans la dimension des enfants. Il soutient en tant que source. Alors, c'est en tant que source que l'homme, le père, doit soutenir sa femme et ses enfants. On a vu la dimension père, source. Il est la source. On va le voir tantôt dans l'hébreu aussi. Alors, ce qu'on veut comprendre dans ça, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme, à partir de la poussière de la terre, a créé l'homme, et il n'a pas retourné à la terre pour créer la femme. Il a pris la femme tirée de la côte de l'homme. Hein, ça, c'est une dimension importante. Alors, ce qui nous fait comprendre, c'est que la femme est sortie de l'homme. Elle vient de l'homme, et tout ce qui vient, automatiquement, l'homme devient la source. Et tout ce qui vient, tout ce qui sort de nous, nous devons le soutenir. C'est ça le principe. Nous devons soutenir ce qui vient de nous, que ce soit notre épouse et nos enfants. Nous avons la responsabilité. Et on va le voir en hébreu tantôt. Alors, la définition du mot « père », pour comprendre encore mieux cette dimension-là, en hébreu, c'est « ab ». Il vient le mot « abba hein? ».« Abba, père ».« Ab ». Alors, ça, c'est en hébreu. En grec, c'est « pater ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça nous fait comprendre? C'est que ce que signifie « ab ». Qu'est-ce que ça signifie, « ab »? « Abba ». D'où vient le mot « abba » comme « père » intimité. Alors la source d'une chose est son Ab. La source d'une chose est, en hébreu est son Ab, son Abba. Que signifie Ab? La source. Regardez bien. Alors, c'est beaucoup plus large qu'en français. La source, le nourricier, celui qui prend soin, celui qui soutient, sur lequel on peut s'appuyer. Le fondement, le protecteur. Alors, la source d'une chose est son Ab, son père. Alors, protecteur, on pourrait voir dans Néhémie, chapitre 4, 13, 14, on va développer quelques termes. Néhémie, chapitre 4, verset 13. Néhémie, chapitre 4, verset 13. Alors ici, on est en train de rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est pourquoi je placerai dans les fondements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas, soutenez-vous, souvenez-vous du Seigneur grand, redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Alors, qu'est-ce que Néhémie est en train de leur dire? Vous devez combattre pour vos familles, vos frères, vos fils, vos femmes, vos maisons. Alors, il s'adresse évidemment ici aux hommes. Et on voit ici la dimension de protection. Alors, dans la dimension, il faut comprendre quelque chose d'important aussi. L'homme doit être un guerrier. Et ça, on l'a perdu souvent. L'homme est un guerrier. Il faut qu'il y ait un combat. Chaque homme doit avoir un combat à livrer. Le bon combat. Paul dit, le bon combat. Vous comprenez? Combat, le bon combat. On peut prendre des combats qui ne sont pas du tout ceux de Dieu, là. Mais l'homme aspire à quelque chose. Il est un guerrier en lui-même. Et cet esprit de guerrier doit être présent mais pour le bon combat, pour nos familles, pour ceux qu'on aime, pour l'Église, pour la vision. Il faut que, et l'homme doit avoir une vision, très, très important. Et il est un guerrier dans son essence même. Et ce que nos sociétés, présentement, sont en train d'écraser, d'enlever cette dimension masculine dans l'homme. Et on le voit présentement, combien on veut efféminer l'homme, pour le rendre impotent. Et c'est vraiment triste de voir ce qui se passe. Et les femmes, vous êtes là pour encourager vos hommes, et ça va apporter la bénédiction. Amen. Supportez vos maris, selon la parole de Dieu, et vous allez voir la bénédiction qui va s'étendre dans vos vies, sur vos foyers. Soyez là, dans l'unité, pour travailler avec eux. Alors, on a vu ça, la source d'une chose est son âme, son père. Je sais que ces enseignements-là ne sont pas tellement fréquents, là, mais elles sont bibliques. Le Père terrestre, le Père terrestre qui est modelé sur son Père céleste. Alors, évidemment, nous devons prendre notre modèle sur notre Père céleste. Soutiendra. Est-ce qu'il nous amène comme enseignement? Si nous sommes modelés sur notre Père céleste, nous soutiendrons, nourrirons, protégerons ce qui vient de nous en tant que source. C'est ce qu'on a vu tantôt dans Éphésiens, chapitre 5. C'est à Dieu que Dieu demande à l'homme de prendre soin. À la responsabilité de l'amour dans le foyer est premièrement confiée à l'homme. La preuve, Dieu lui demande, Marie, aimez vos femmes. Premièrement, la responsabilité d'apporter l'amour a été confiée au Père. C'est bien biblique. Il soutient en tant que source. Alors, ça, c'est important. Être la source et le soutien ne signifie pas que nous dominions sur les autres comme des dictateurs. Hein, il y a des gens que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. C'est de favoriser le développement de ton épouse, de ton foyer, et non pas dans une dictature, hein, des régimes de fer, là, d'autorité de fer, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes premièrement des serviteurs. Hein, comme Christ a aimé son Église, il s'est sacrifié, il s'est donné pour elle. Alors, chaque père doit avoir cette dimension de sacrifice, de donner sa vie, comme Christ a donné sa vie pour son Église. Il doit la donner pour son épouse et son foyer. Notre vie est un sacrifice pour les gens qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça la dimension d'être un père et d'être un modèle, un homme qui se sacrifie, qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Alors, il n'est pas une dictature, mais Dieu a quand même conféré, Dieu a conféré une autorité et une responsabilité au père qui doit être reconnue et respectée dans le foyer. Il demande d'honorer les pères à cause de la fonction et de la responsabilité que Dieu leur a attribuée. Alors, cela signifie que vous êtes responsable de ce qui vient de vous. Alors, on le voit ici dans la dimension d'Adam. Alors, on sait que Dieu a tenu responsable Adam. C'est lui qui a été tenu responsable de la chute. Dieu est allé vers Adam pour dire, tu es responsable. Elle a été responsable de protéger sa femme. Adam ne l'a pas fait. Il est responsable de la protection, de la croissance de ceux à qui il a été mis en responsabilité selon le plan de Dieu. Alors, une des premières responsabilités du Père, on la voit, on va vous donner juste la référence, on le verrait, Abraham. Dieu lui donne une responsabilité d'enseigner sa maison selon les voies de Dieu. On le voit déjà avec Abraham. On le voit aussi dans Deutéronome. Tu enseigneras ta maison. Deutéronome 4, 9. On pourrait aller le voir ensemble. Alors, c'est la première responsabilité, enseigner la parole de Dieu. Vous savez, les femmes ne sont pas exclues, là. On travaille ensemble. On est en équipe. On est ehad. Hein? Vous aimez ce mot-là? On est ensemble. Toute maison, hein, qui ne travaille pas dans le ehad va devenir divisée. Ce n'est pas ce qu'on veut, là. Deutéronome 4, verset 9. Notre monde est tellement loin. Pas étonnant, il y a tellement de confusion dans notre société. C'est devenu une folie. Confusion complète. Mais si on retourne à la parole de Dieu, la première, c'est la bénédiction. Amen. C'est la santé, c'est la bénédiction. Deutéronome 4, 9, Dieu avait donné exactement tout ce qu'il faut à l'homme pour qu'il soit béni. Deutéronome 4, 9, on va aller voir ensemble. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça, c'est important. Alors, la première responsabilité qu'on voit ici qui était donnée, et souvent, malheureusement, les pères se dissocient de ça. Ils laissent ça à la femme, lorsqu'ils devraient être les premiers responsables d'enseigner leur maisonnée. Et évidemment, ils travaillent en équipe. Ça ne veut pas dire que la femme ne participe pas. On travaille ensemble. Ce que Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes de Dieu, selon son plan, selon son cœur. Alors, on voit aussi qui est encore affirmé par Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Hein? C'est Josué qui l'a dit aussi. Alors, on va voir maintenant Père, il y a Père comme source. On continue tout dans la dimension de la source. Source de la rédemption. Alors, le Père est source comme source de la rédemption. Le Père est aussi la source de notre rédemption en Jésus-Christ. C'est le Père qui a envoyé son Fils. Hein? Alors, il est la source aussi. C'est lui qui a initié cette œuvre de la croix. Et Jésus a répondu qu'il est venu pour faire et accomplir la volonté de son Père. Alors, il est la source de la rédemption comme Père. Personne ne peut venir à Jésus sans le Père. Jean, chapitre 6, verset 44. Nous, les hommes, si nous commençons à appliquer ces principes, nous allons voir des grandes bénédictions dans nos familles et dans l'Église. Ce qui m'attriste, c'est de voir combien c'est l'enseignement aujourd'hui qui est vraiment tellement important que nous, chrétiens, devons comprendre pour nos foyers. A été comme souvent encore peu comprise. Alors, on voit ici chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On est tous ici parce que le Père céleste nous a attirés à lui. C'est ça. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alors, on est tous ici à cause du Père, au fond de ça. Puis, évidemment, le Fils accomplit la rédemption, mais le Père était la source de cette rédemption-là. En Christ, maintenant, les hommes et les femmes retournent à leur source. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé à la chute? On est allé, Adam et Ève sont allés à une autre source, qui était la source, un autre père. Hein? Le père du mensonge, qui est entré dans le monde. Alors, la nouvelle naissance représente de retourner à notre vrai Père, qui est la source. Hein? Le menteur a pris la place d'une place qui ne lui revenait pas. Il n'était pas la vraie source. Il n'était pas le Créateur. Satan s'est investigué d'une autorité de Père par le mensonge pour tromper l'humanité. Alors, au fond de ça, Christ nous conduit au Père par la nouvelle naissance, à travers, pour que nous retournions dans cette relation filiale avec notre Père, notre vrai Père céleste. Amen. Alors, le Père du mensonge, Adam et Ève avaient écouté le Père, sont allés à une autre source. Et ce qui est arrivé après, ils ont expérimenté quoi? La séparation avec Dieu et la honte. Et le monde vit dans cette dimension. En Christ, nous retournons à notre vrai Père. Amen. C'est pas merveilleux? Par la croix, nous retournons à notre vrai Père. Voyez-vous, on a vu ça tantôt. Le désir de notre Père céleste, c'est une relation filiale. Hein, on l'a vu au premier verset. Vous vous souvenez? Une relation, nous faire rentrer dans la connaissance de cette relation, que cet amour qui était pour nous avant que le monde fût créé. C'est merveilleux, hein? On nous étire dans son cœur. Il nous voyait déjà comme ses fils et ses filles avant que le monde fût créé. Il voulait former une famille dont il serait le père. Amen. C'est merveilleux. Amen. Dieu est bon, hein? L'héritage, évidemment, comme ils ont été au père du mensonge, Adam et Ève ont laissé un héritage. L'héritage d'Adam fut la mort. Hein, on le voit dans la parole de Dieu. La mort a passé par la semence d'Adam. Alors, il faut comprendre quelque chose aussi, une dimension, c'est que la mort passe à travers Adam et non Ève. C'est spécial un petit peu ça, hein? Vous allez voir que ça vient de la semence de l'homme. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Romains chapitre 5, verset 12. Vous connaissez bien ce passage-là, mais on le ramène à notre esprit. Romains 5, 12, ça nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est bien dit un homme, c'est vraiment comme ça. Alors, voyez-vous la dimension? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On sait que cet homme-là, c'est Adam. Alors, Dieu le premier Adam a échoué. Le deuxième, qui est Jésus-Christ, va apporter une nouvelle semence. Hein? Il va apporter une nouvelle semence. Par la semence d'Adam, tous sont morts en Adam. Alors, c'est l'homme qui transmet la nature du péché. C'est à travers la semence de l'homme que la nature du péché est transmise. La preuve, c'est que Joseph n'était pas le père légitime de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Mais Marie avait comme antécédent des gens qui transportaient la mort. Ils sont nés de parents pécheurs. Hein? Marie est née de parents pécheurs. Et Marie n'a pas transmis. Elle a porté Jésus dans son sein. Puis Jésus est resté intact, sans être touché par la semence du péché qui venait d'Adam. Alors, ce qui prouve que la transmission du péché, de la nature pécheresse, passe par l'homme à travers le premier homme, Adam, se transfère de génération en génération. Alors, nous avons besoin d'une nouvelle semence qui est celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la nouvelle semence. Nous sommes régénérés par l'Esprit-Saint pour une nouvelle semence de la vie éternelle. Pour ça, tantôt, il disait, « Je leur donne la vie éternelle. » Il faut comprendre tout ça, c'est important. Alors, en Jésus, on reçoit une nouvelle semence, un nouvel héritage. Voilà pourquoi nous avons besoin, le monde a besoin de changer de père. Ils sont tous sur le père, sous l'influence du père du mensonge, le faux père, qui les trompe depuis le commencement. Nous avons besoin de naître de nouveau avec la nouvelle semence éternelle que Jésus nous donne. Je leur donne la vie éternelle, qui est le gène du Père céleste. C'est le gène même du Père céleste qui nous est donné à travers son Fils, Jésus-Christ. Avec la promesse de la résurrection, c'est ce qu'on a vu tantôt. Seul Jésus peut briser la malédiction d'Adam. On le sait, hein? Les religions sont tous au même point dans l'incapacité de briser ce pouvoir de malédiction qui est sur l'humanité. Seul Jésus peut la briser, qui porte une nouvelle semence. Les pères doivent... Alors, on va voir une autre dimension aussi. Les pères, on a vu ça tantôt encore, on le répète, les pères doivent enseigner leur famille afin de laisser un héritage à leur enfant. Une des dimensions des pères, c'est l'héritage. Il faut laisser un héritage. Et souvent, nous, on pense beaucoup à l'héritage de biens matériels. Mais le principal héritage que vous pouvez, c'est la connaissance de Dieu. Amen. C'est le vrai héritage. Et regardez comment Dieu nous explique dans sa parole comment cet héritage est important de la laisser. On l'a vu tantôt, Deutéronome chapitre 4, verset 9. Enseignez la parole de Dieu dans leur maison. C'est très puissant. les enfants nous voient. Et savez-vous, dans le concept d'enseignement, le modèle, c'est ce qui est le plus fort. Les enfants vont reproduire ce que vous êtes. C'est inévitable. Le modèle s'imprègne. Alors, si votre priorité est dans les choses de Dieu, vos enfants vont dire, ça, c'est la priorité. C'est là que je dois diriger mon attention, ma vie. Mettez vos priorités à la bonne place. Et qu'est-ce qui fait autorité dans nos maisons? La parole fait autorité. Il n'y a pas d'autre, ou il n'y a pas d'autorité. Alors, il doit y avoir une autorité dans la maison. C'est la parole de Dieu. Où il n'y a pas d'autorité, il va y avoir la confusion puis le chaos. C'est ça que ça va faire. Où il n'y a pas d'autorité, l'autorité vient de la parole. Dans la maison, c'est le chaos. Et la Bible nous dit encore, en autre dimension, que demande au Père, doit discipliner. Alors, on va essayer de mieux comprendre, discipliner. Discipliner, ce n'est pas un père qui arrive enragé du travail, puis il se contient pas, puis il donne une fessée aux enfants. Ce n'est pas ça du tout, là. Il faut comprendre la dimension. Alors, la Bible nous dit de corriger les enfants. Alors, dans le sens de corriger les enfants, les discipliner. La discipline, la correction, a pour but de nous amener à un niveau supérieur. On corrige quelque chose pour faire grandir quelqu'un. Alors, nous devons discipliner. Un enfant qui n'est pas discipliné ne se sentira pas aimé. Pourquoi? L'enfant n'est pas fou. Il sait. C'est comme tu l'abandonnes à lui-même. Quand il sait lui-même qu'il n'a pas bien agi, tu l'abandonnes à lui-même, il ne peut plus te faire confiance. C'est ça le danger. Un enfant qui n'est pas discipliné va perdre confiance en ses parents parce qu'il sait qu'il mal agit et mes parents ne me corrigent pas. C'est mal aimer un enfant. Puis les enfants s'en rendent compte. À un moment donné, ils perdent confiance en vous. Ils ne vous consulteront plus. Donc, je ne peux pas y faire confiance, mais il laisse faire n'importe quoi. Il n'y a pas de direction. On doit donner de la direction. Alors, faire attention à ces choses-là. La discipline correction a pour but de nous amener à un niveau supérieur. J'en ai pour quelques minutes, ce ne sera pas long, presque terminé. Alors, l'idée de la correction, c'est de cultiver. C'est comme un jardin. Dieu a donné à Adam et Ève un jardin comme modèle. Pensons toujours au modèle. Il nous donne des modèles. On conçoit toujours quelque chose avant par un modèle. Alors, il donne un modèle, après ça, il dit, allez sur toute la terre, assujettissez, dominez-leur, cultivez-la. Mais je vous ai donné un modèle. Alors, le modèle est très important. Pensons toujours à l'idée du modèle. Les enfants nous regardent. Cultivez, formez. Alors, les plants cultivés forment un jardin. C'est ça? Vous cultivez, les plants que vous cultivez vont former un jardin. Les plants non cultivés, qu'est-ce que ça va faire? Le jardin va disparaître à travers les mauvaises herbes. Vous allez perdre votre jardin. Ça va être non cultivé, ça va devenir un fouillis. Finalement, vous allez l'abandonner souvent, ce jardin-là. Alors, la culture relève du plan du Père. Il nous l'a donné au début. Alors, ça, c'est ça. La culture relève du plan du Père céleste pour l'humanité. Il faut cultiver. Et former des disciples, c'est cultiver. C'est ça l'idée. C'est d'amener un niveau supérieur. Dieu ne voulait pas d'une culture désorganisée. C'est pour ça qu'il nous a donné un modèle. Et nous avons un modèle aussi. Il faut cultiver nos enfants en les enseignant. Mais soyons clairs comme père que nos foyers, il y a une direction. Les enfants savent exactement ce que je dois faire, qu'il y a une direction. Il y a une culture qui se fait dans nos foyers. Alors, méconnaître le père peut produire une crise d'identitaire. Moi, je vais vous dire, quand j'étais à l'Armée du Salut, plus j'avançais finalement à travers les années, je me rendais compte combien d'hommes venaient se présenter. Et la première chose qu'ils me disaient, je ne sais pas qui je suis. Je n'ai pas d'identité. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas à quoi je sers. On est dans une crise profonde d'identité. Ce n'est pas étonnant qu'autant de gens pensent qu'en changeant transformant leur corps, ils vont trouver une identité qu'ils vont sentir bien. C'est tout du mensonge. Ça, ça vient du père du mensonge. Dieu ne s'est jamais trompé avec personne. Alors, on voit toute cette confusion qui fait qu'on est tellement loin aujourd'hui parce qu'on a délaissé la source. Amen. On a délaissé la source. Et Dieu nous a donné une source extraordinaire qui est sa parole, qui est la vérité, qui nous affranchit, qui nous libère de toute cette folie humaine. Alors, me connaître le Père peut produire, et c'est important. Nous aussi, comme Église, on a besoin de cette révélation de connaître le Père. Parce qu'on peut être dans une Église où manquer d'identité, où on se sent seul, où on ne se sent pas trop connecté. Avoir même une crise identitaire. Le fils prodigue avait perdu son identité. Hein, le fils prodigue, il croyait vraiment plus faire partie de la famille. Là. Il est parti, je termine avec ça bientôt. Le fils, hein, vous connaissez cette histoire, il est allé avec débauche, tout gaspillé. Il était convaincu qu'il n'y avait plus de place pour lui dans l'Église. Excusez-moi, dans sa famille. Il était comme ça. Et ça peut être même dans l'Église qu'on se sent comme ça. Pensez. Et on voit comment le Père, alors on sait qu'on veut comprendre encore le principe, le concept du Père ici. Comment le Père veut ses enfants à proximité. C'est le Père, savez-vous? À l'époque, ce que le Père a fait, là, c'était pas évident. Son fils, il a tout dépensé, gaspillé. Puis là, tout d'un coup, le fils arrive. Aux yeux de tout le monde, il part à la course, puis saute au cou de son garçon, puis serre dans ses bras. Puis... Mon Dieu! Qu'est-ce que fait le père en faisant ça? Il l'a réintroduit. Il l'a rétabli. Comme dans sa famille. Il l'a introduit dans son identité familiale. La façon qu'il l'a Et qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a couvert. C'était la honte pour lui, là, ce jeune homme-là, retourner à la maison, là, dans tout le monde. Là. Il était dans la honte. C'est ça, la séparation, on l'a vu tantôt. Hein? On s'est éloigné du père. L'humanité a tombé dans le chaos et dans la honte. Alors, lui, il revient dans la honte. Et le père... Qu'est-ce qu'il fait en lui sautant au bras? Il vient couvrir sa honte pour prendre lui-même la honte sur ses épaules. Puis c'était pratiquement, on pourrait dire, dans la culture, c'était honteux qu'un père agisse de même. Il y avait tout un processus, il fallait que tu montes ta repentance après tant de temps, puis là, tout un processus, faire tes preuves, mais ce n'est pas comme ça que le père l'a conçu. Il a couvert sa honte lui-même en prenant la honte pour lui. Il reçoit probablement toute sale. Il prend dans ses bras. Il couvre sa honte. Puis il restaure le Père. Et encore, on voit combien notre Père aujourd'hui désire que ses enfants, ses fils et ses filles soient près de lui. Amen. Est-ce que vous comprenez la dimension? Il nous restaure. Après ça, il dit bien, tuez le veau gras. Faites une grande fête. Tout ça. Et il a restauré toute sa dignité. Il a restauré toute son identité familiale et personnelle. Il a été réintroduit dans la famille. Comment le Père nous réintroduit dans des situations comme ça? C'est important de comprendre toutes ces dimensions. Le Père va nous restaurer, nous rétablir. Nous redonne l'identité. Amen. Alors, c'est encore une dimension du Père. Être des pères et des hommes. Maintenant, je termine sur ça. Des modèles. Vous savez, pourquoi Dieu nous demande d'honorer les pères à cause de leur responsabilité? La tâche est difficile. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage pour faire la volonté de Dieu. Et Jésus le dit, Père, que ta volonté soit faite. Savez-vous, en ces paroles-là, c'était des paroles de courage. Il savait qu'il devait aller à la croix, subir le rejet, le supplice, l'indignation, les crachats, le mépris. Être un père demande. Les pères qui veulent faire la volonté de leur Père céleste, ça va leur demander du courage. Ils ont besoin du soutien de leur femme. Alors, être des hommes de courage, c'est une dimension importante. Ça va vous demander, comme Jésus, être courageux. Être des pères et des hommes de courage. David, les dernières paroles de David à Salomon, je ne sais pas si vous les avez remarquées, sois courageux. C'est ça, ces dernières paroles. Sois courageux. Ça, c'est important. Les paroles importantes. Et je dis à chaque homme ici aujourd'hui, sois courageux pour faire la volonté de Dieu. Être des modèles avant tout. C'est ça qui est difficile. Être un modèle. À mort à soi-même. Mourir pour aimer nos femmes, nos enfants. Sacrifier sa vie. C'est ça. C'était le concept de nos ancêtres, souvent. Ils seraient morts pour faire manger leur famille. Ils seraient morts. Ils puisaient la mort. Toutes ces dimensions-là, on les a perdues. On a vu, malheureusement, souvent, les hommes aujourd'hui tellement... Je ne veux pas attaquer personne. Je sais qu'il y a des hommes courageux ici qui aiment Dieu et qui aiment leur famille. Je le sais. Mais regardons autour de nous. Ça s'est perdu. L'effondrement, le vrai problème dans nos sociétés, moi, je l'identifie au Père. Ça va tellement loin, tout ça. Là. Ils ne sont pas là, là. Dans leur fonction, c'est tout s'effondre. Puis on assiste à l'effondrement de notre société aujourd'hui. Alors, être des modèles à tout prix. Si nous avons manqué, il n'est pas trop tard. Amen. On peut reprendre, on peut, selon le modèle qu'on a reçu du Père céleste, maintenant agir de la même façon. Souvenons-nous que nos enfants apprennent par nous comme modèle. Il n'est pas trop tard. Maintenant, je sais que moi, j'en viens ici, je prends pas mal de temps. Il n'est pas mal à dire, là. Quand vous me parlez de cette dimension des pères, on pourrait tellement en parler, là. C'est une dimension qui est tellement à cœur. Parce que moi, je crois que, à moins que les pères soient restaurés dans leur position biblique, selon la volonté de Dieu, l'Église va souffrir. L'Église va souffrir. Le monde souffre. Mais il ne faut pas qu'il en soit de même dans l'Église. Il faut que les pères retournent à leur père selon le modèle. Amen. Et que la bénédiction, hein? Regardez la bénédiction. En parlant de Joseph, à un moment donné, on parlait fructueux, arbre fructueux. On parlait de la bénédiction qui était répandue sur Joseph, sur ses descendants. Dieu veut mettre la bénédiction sur ta vie. N'oubliez pas, la bénédiction paternelle, c'est biblique. Bénissez vos enfants. Bénissez-les. Prononcez comme... Regardez à Jacob, comment il a béni ses enfants. Et savez-vous, si vous faites l'étude, toutes les paroles qui ont été prononcées par Joseph étaient inspirées de Dieu. Bénissez. Dieu vous a donné une autorité inhérente pour bénir vos foyers. Bénissez vos épouses. Bénissez vos enfants. Bénissez vos petits-enfants de génération en génération. Prononcez des paroles de bénédiction. Amen. Voyez-les comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Des rois, des princesses. Vos enfants seront des princes et des princesses. Amen. Voyez-les comme ça. Des princes et des princesses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On termine par un DVD. On pourrait en parler longtemps. Gloire au Seigneur. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.